Après la pose de Pausanias, je dois ce genre de symétrie et d'assonance à l'enseignement des sophistes, c'était, racontait Aristodème, au tour d'Aristophane de prononcer un discours. Mais le hasard voulut que, soit parce qu'il avait trop mangé, soit pour une autre raison, un hoquet le prit et qu'il ne fut pas capable de parler. Ce qui ne l'empêcha pas de s'adresser à Eryximaque, qui occupait la place au-dessous de lui. « Tu ferais bien, Eryximaque, soit de m'aider à arrêter mon hoquet, soit de parler à ma place avant que je n'aie moi-même réussi à l'arrêter. » « Eh bien, répondit Eryximaque, je vais faire les deux choses. Je vais, moi, parler à ta place, et toi, tu parleras à la mienne quand ton hoquet aura cessé. Pendant que je parlerai, si tu arrives à retenir ton souffle assez longtemps, le hoquet s'arrêtera. Si tu n'obtiens pas de résultat, gargarise-toi avec de l'eau. Et si ton hoquet persiste toujours, prends quelque chose pour te gratter le nez et éternue. Quand tu auras fait cela une ou deux fois, si tenace que puisse être ton hoquet, il s'arrêtera. « Dépêche-toi de parler, » répondit Aristophane, « et moi, je vais faire ce que tu dis. » Alors, Eryximaque prit la parole. « À mon avis, nécessité m'est faite, puisque Pausanias, après avoir bien commencé son discours, ne l'a pas mené comme il le faut à son terme, de tenter de donner un terme à ce discours. C'est fort bien, à mon avis, d'avoir distingué deux héros. Mais cette distinction ne concerne pas seulement les âmes des êtres humains qui recherchent de beaux êtres humains. Elle se retrouve aussi dans les autres choses, qui recherchent toutes sortes d'autres choses, que ce soit dans le corps des vivants dans leur ensemble, dans les plantes qui poussent dans la terre, et pour ainsi dire, en toutes choses. La médecine, notre art, nous permet, me semble-t-il, de constater à quel point il est grand et étonnant ce Dieu, et comment il étend son pouvoir à toutes choses, aussi bien aux choses humaines qu'aux choses divines. C'est par la médecine que je commencerai mon discours, de façon à donner à cet art la place d'honneur. En effet, la nature des corps comporte le double héros que je viens d'évoquer. Car dans le corps, ce qui est sain et ce qui est malade, c'est, tout le monde l'admet, quelque chose de différent et de dissemblable. Or, le dissemblable recherche et aime le dissemblable. Ainsi donc, l'amour inhérent à la partie saine est différent de l'amour inhérent à la partie malade. Dès lors, de même qu'il est beau, Pausanias le disait à l'instant, d'accorder ses faveurs aux êtres humains qui le méritent, et honteux d'accorder ses faveurs aux débauchés, de même, quand il s'agit des corps eux-mêmes, favoriser ce qu'il y a de bon et de sain dans chaque corps est beau, et c'est ce qu'il faut faire, et c'est cela que l'on appelle médecine. Tandis que cela est honteux pour ce qui est mauvais et malsain, et qu'il faut défavoriser si l'on veut suivre les règles de l'art. Car, pour le dire en un mot, la médecine est la science des opérations de remplissage et d'évacuation du corps que provoque Eros. Et celui qui sait distinguer dans ces cas quel est le bon Eros et quel est le mauvais, celui-là est le médecin le plus accompli. De même, celui qui sait opérer les changements qui permettent d'acquérir un Eros à la place de l'autre, qui donc sait comment faire naître Eros dans les corps où il ne se trouve pas, alors qu'il devrait s'y trouver, et qui, dans le cas contraire, sait comment faire partir quand il s'y trouve, celui-là est sans doute un bon praticien. Il doit, bien sûr, être en mesure de faire apparaître l'affection et l'amour mutuel entre les choses qui, dans le corps, sont le plus en conflit. Or, les choses qui sont le plus en conflit, ce sont celles qui sont au plus haut point des opposés, le froid et le chaud, le piquant et le doux, le sec et l'humide, et toutes choses analogues. C'est parce qu'il a su établir entre ces choses amour et concorde que notre ancêtre, Asclépios, a fondé notre art, comme vous le rapportez, vous, les poètes, et comme j'en suis persuadé, moi. La médecine est donc, comme je viens de le dire, tout entière gouvernée par ce dieu, et il en va de même pour la gymnastique et pour l'agriculture. La musique est dans le même cas, la chose est claire pour quiconque y consacre un minimum de réflexion. C'est sans doute aussi ce que veut dire Héraclite, même si son expression n'est pas celle qui convient. L'unité, dit-il en effet, se constitue en s'opposant elle-même à elle-même, comme c'est le cas pour l'accord de l'arc et celui de la lyre. Or, il n'est vraiment pas raisonnable de dire que l'accord consiste en une opposition ou qu'elle résulte d'une opposition qui continue de subsister. En fait, Héraclite voulait sans doute dire la chose suivante. À partir d'une opposition antérieure entre l'aigu et le grave, un accord se réalise ultérieurement grâce à l'art musical. Car si effectivement l'aigu et le grave continuaient de s'opposer, il ne pourrait y avoir accord. L'accord est consonance, et une consonance est une sorte de conciliation. Or, la conciliation de ce qui s'oppose est impossible tant que l'opposition subsiste. Par ailleurs, on ne peut réaliser un accord avec ce qui s'oppose et qui refuse toute conciliation. Oui. Et il en va de même pour le rythme qui naît du rapide et du lent, lesquels, d'abord opposés, s'accordent par la suite. Et de même que tout à l'heure c'était la médecine, c'est à présent la musique qui introduit l'accord entre tous ces termes en produisant l'amour mutuel et la concorde. Autrement dit, la musique est elle aussi, dans l'ordre de l'harmonie et du rythme, une science des phénomènes qui ressortissent à l'amour. Il n'en reste pas moins que, même si, dans la constitution d'un accord et d'un rythme, on arrive sans aucune difficulté à discerner l'intervention de l'amour, le double Eros, lui, n'y intervient pas encore. Mais quand il faut, à l'usage des hommes, mettre en œuvre le rythme et l'harmonie, soit en composant, ce que nous appelons composition lyrique, soit en utilisant de façon correcte des chants et des poèmes déjà composés, ce que nous appelons éducation, c'est alors que les choses deviennent difficiles et que nous avons besoin de quelqu'un qui sache bien son métier. On voit en effet revenir ici le même argument. S'il faut s'aider, ce doit être à des êtres humains dont les mœurs se sont bien réglées et dans le but de devenir meilleurs si ce n'est pas encore le cas. Et c'est l'amour de ces hommes-là dont il faut assurer la sauvegarde, c'est-à-dire le bel Eros, l'Eros céleste, l'Eros de la muse Uranie. L'autre est celui de la muse Polymnie, l'Eros vulgaire, qu'il faut offrir avec prudence à ceux à qui on l'offre, de manière à en cueillir le plaisir, sans provoquer aucun dérèglement. De même, dans notre art, c'est une affaire importante que de bien user des désirs relatifs à l'art culinaire, de manière à en cueillir le plaisir, sans se rendre malade. Ainsi donc, en musique, en médecine, et partout ailleurs, aussi bien dans les choses humaines que dans les choses divines, pour autant que cela est permis, il faut sauvegarder l'un et l'autre amour, puisqu'ils s'y trouvent tous les deux. Étant donné que l'arrangement des saisons de l'année est aussi plein de ces deux Eros, chaque fois que les attributs dont je viens de parler, le chaud et le froid, le sec et l'humide, rencontrent dans leur rapport mutuel l'Eros qui est bien réglé, chaque fois qu'ils s'accordent et qu'ils se mêlent de façon raisonnable, ils viennent apporter l'abondance et la santé aux hommes, aux animaux et aux plantes. Ils ne leur causent aucun dommage. Mais chaque fois que l'Eros qui s'accompagne de démesure prévaut en ce qui concerne les saisons de l'année, il provoque de nombreuses destructions et de nombreux dommages. En effet, les épidémies se plaisent à provenir de tels phénomènes, et il en va de même pour la masse disparate des maladies qui frappent les animaux et les plantes. Gelée, grêle, niel du blé, proviennent du déséquilibre et du dérèglement qui s'installent dans les relations mutuelles qu'entretiennent de tels phénomènes qui relèvent d'Eros. Il est une science de ces phénomènes qui s'intéresse au mouvement des astres et des saisons de l'année. Elle a pour nom astronomie. Il y a plus. Les sacrifices dans leur ensemble et ce qui ressortit à la divination, c'est-à-dire ce qui permet la communication entre les dieux et les hommes, n'ont d'autre but que cela. Sauvegarder Eros et le guérir. En effet, toute impiété se plaît à naître ainsi. Au lieu de céder à l'Eros dont les mœurs se sont bien réglées, de l'honorer et de le révérer en toute action, c'est à l'autre Eros que l'on cède dans les rapports que l'on entretient avec ses parents, vivants ou morts, et avec les dieux. D'où précisément la tâche qui a été prescrite à la divination, soumettre à un examen les Eros et les soigner. Dès lors, la divination a pour métier d'établir un lien d'amour entre les dieux et les hommes, parce qu'elle sait qu'elles sont chez les hommes, tous les rapports amoureux qui tendent à assurer l'observation des lois divines, c'est-à-dire la piété. Telle est la multiple, l'immense, ou plutôt l'universelle puissance que, considérée dans sa totalité, possède Eros dans toutes ses manifestations. Et celui qui travaille, avec modération et avec justice, à réaliser des œuvres bonnes, que ce soit chez nous ou chez les dieux, c'est lui qui détient la puissance la plus grande. Il nous procure toute espèce de bonheur et il nous rend capables d'avoir commerce et amitié les uns avec les autres et même avec ces êtres qui nous sont supérieurs, les dieux. Cela dit, dans mon éloge d'Eros, je laisse sans doute beaucoup de choses de côté, mais ce n'est pas de mon gré. Au reste, si j'ai oublié quelque chose, c'est ton affaire, Aristophane, de combler la lacune. Ou bien, si tu as dans la tête de faire de ce dieu un autre type d'éloge, fais-le, puisqu'aussi bien ton hoquet a cessé.